Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court, qui écoute tous les soirs les artistes pendant une heure. Ce soir, avec l'autrice Claudine Galéa.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Dans toutes les villes, il y a des trous noirs, des secrets, des histoires innommables. Les cacher ne sert à rien. Plus on les cache, plus on s'y relie en secret. On se met au secret, on s'emprisonne, on se fout au trou. Au trou, on ressasse, on se fait bouffer de l'intérieur, on devient son propre rat. Ce sont vos mots, Claudine Galéa, ils éclairent le projet de votre narratrice, écrire les choses comme elles sont et se rapprocher de la fantaisie du ciel bleu peint au plafond par son père parce qu'il porte toutes les vies possibles. Pour cela, elle reprend les images une par une, les visages, les verbes à l'infinitif, les noms que l'on donne enfant, aux gens et aux choses. Pour cela, elle ravive les mots entendus parce qu'elle est plus à même de les comprendre à distance. En italique, il rapatrie un monde. Ce roman existe dans une géographie mouvante, Algérie, Indochine, ville française, entre le trou noir et les grands bleus. Bonsoir à vous, Claudine Galéa.
Bonsoir.
Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Les choses comme elles sont, c'est le titre de ce roman qui est publié aux éditions Verticales en cette rentrée de janvier. Et puisqu'on est en janvier, j'ai encore le droit de vous demander si vous avez un vœu pour 2019. Ou plusieurs.
Que la beauté continue de nous apparaître.
Ça veut dire qu'il faut s'y rendre disponible ?
Oui, et ça veut dire qu'il y en a, même si elle est parfois cachée.
Et vous voulez dire qu'elle est plus souvent cachée qu'apparaissante ?
Oui, sans doute. Il faut faire peut-être un effort pour la voir, et puis il faut la dégager de tout ce qui nous, de tout ce qui l'occulte et de tout ce qui nous empêche.
Est-ce un travail qui est à l'œuvre pour vous dans l'écriture ? De rendre visible cette beauté, de faire en sorte qu'elle soit apparente.
Oui, peut-être, en fait, oui. Ça me plaît bien.
Si quelque chose est dans de l'écriture de quelqu'un, je crois que chaque page du livre et chaque livre de l'œuvre est un volet cohérent, indispensable, et que le livre suivant ne peut pas avoir été écrit sans le précédent, et ainsi de suite. Et que si c'est pas le cas, d'abord c'est pas bon. Mais c'est pas moi de juger ça pour moi, bien évidemment. Mais enfin, donc je pense que la réponse que je peux donner, c'est non. Ils sont pas interchangeables, et ils le sont d'autant moins que, dans mon cas, en tout cas, même si ils disent éventuellement la même chose ou en partie la même chose, ils le disent à chaque fois. C'est ce que j'ai voulu faire, ou ce que le développement de ma vie d'écrivain m'a poussé à faire. Ils le disent à chaque fois d'une façon différente. Donc c'est dans cette différence que réside, dans cette différence d'écriture d'un livre à l'autre, que réside, dans mon cas, l'originalité éventuelle du livre. Et dans le cas précis de ce livre-là, il est carrément très différent, parce que je suis vraiment à une étape tellement différente, ou du moins que j'éprouve comme tellement différente, que j'ai éprouvé besoin dans la liste où est dressé l'ensemble des livres que l'auteur a publié, j'ai demandé qu'on mette pas du même auteur, parce que je me sens plus le même auteur que celui des livres précédents, qui faisait, j'espère, pas le même livre, mais était quand même le même auteur.
C'est Dominique Fourcade au micro d'Alain Weinstein dans l'émission Du jour au lendemain. On est en 2012 et il vient de publier Manque aux éditions POL. Et ce filou fait figurer ce titre-là comme n'étant pas du même auteur. Plusieurs choses. Et d'abord dire, Claudine Galéa, qu'on choisit d'entendre la voix de Dominique Fourcade parce qu'il est en exergue de ce livre-là, Les choses comme elles sont. Plusieurs choses dans cette archive. D'abord, l'idée que des livres fonctionnent ensemble dans une œuvre. Est-ce que vous diriez cela pour ce qui concerne votre propre travail ?
Alors d'abord, merci de faire entendre cette archive de Dominique Fourcade. J'en suis très heureuse parce que c'est quelqu'un qui compte pour moi dans son travail, dans son chemin. Et j'aime beaucoup à la fois l'assurance et l'humilité avec laquelle il s'exprime. Je partage complètement le fait que les livres sont justement un cheminement, qu'on n'écrit pas un livre au hasard après le précédent. Pas simplement par ce que le livre raconte, mais aussi par la composition du livre. Je pense qu'on acquiert un certain nombre de savoirs, au pluriel, hein. Ces savoirs-là, qui ne sont pas du savoir-faire, mais qui sont simplement qu'on se forge des outils au fur et à mesure qu'on travaille, et que ces outils que j'ai aujourd'hui, je ne les avais pas forcément 8 ans avant, puisque mon précédent roman remonte à 8 ans en arrière, même si j'ai écrit d'autres choses entre-temps, et que ces autres choses comptent, je pense évidemment au théâtre. Mais il est clair que j'ai pu aller avec ce livre-là à un endroit où je n'étais pas allée précédemment.
Vous dites que ce ne sont pas des savoir-faire, mais alors ce sont des savoirs qui quand même concernent l'écriture, ou ce sont des savoirs qui se rapportent à la vie, à votre être, à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, le rapport à la beauté? Ou c'est aussi des savoirs qui concernent la langue et le rapport à ça?
C'est d'abord des savoirs qui concernent la langue. La langue dans tout ce qu'elle déploie, c'est-à-dire aussi bien dans le style que dans la composition. Et je pense surtout qu'en termes de composition, c'est là qu'on apprend le plus, qu'on progresse le plus, si ce mot veut dire quelque chose. Moi, j'ai quand même la sensation de ça, c'est-à-dire que je tenais beaucoup avec ce livre à travailler la composition, à élargir le spectre de la narration, à tisser ensemble des histoires différentes, à tisser des époques et comme vous l'avez dit en introduction, à l'inscrire dans une géographie plus grande, à agrandir un territoire qui est à la fois mon travail, le territoire de mon écriture et le territoire de l'histoire pour les lecteurs.
Et vous sauriez dire auprès de quoi ça s'acquiert, ce genre de savoir ?
Je crois que c'est simplement d'écrire et d'encore écrire. Et qu'au fur et à mesure, des choses arrivent, apparaissent, qui n'apparaissaient pas jusqu'alors, tout simplement. Et c'est écrire, pour moi c'est écrire, c'est-à-dire il y a le travail romanesque, mais il y a tout le reste, le travail dramaturgique, le travail théâtral, entre aussi dans ce cheminement, dans cette construction et dans cette évolution. Bien sûr, on n'est pas la même personne. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 8 ans, ni même quand j'ai écrit mon premier roman en 2003, je crois que c'était. Mais c'est surtout en termes artistiques, je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut avancer, explorer, expérimenter et complexifier les choses.
Quand Dominique Fourcade va jusqu'à réclamer que ce soit sur une liste qui dise pas du même auteur, c'est une façon de radicaliser ce que vous venez de dire à l'instant, Claudine Galéa, mais quand même, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse de dire à la fois il y a un cheminement, donc il y a une forme de continuité, et à la fois il y a une discontinuité tellement forte que presque ce serait pas la même personne qui écrit?
Ouais, ça m'arrive notamment au théâtre, parce que parfois j'écris un texte qui a tellement... C'est comme si j'étais une autre. C'est comme si l'exploration que je faisais, elle allait complètement ailleurs de la précédente. Donc ça m'arrive au sens où, je pense de toute façon qu'on est plusieurs. Très sincèrement, très franchement, je pense qu'on n'est pas une et indivisible. On est plusieurs personnes et on a plusieurs couleurs en soi. Et c'est aussi la chance, je dirais, de vieillir dans la création, c'est que on peut changer de couleur. Et ça m'intéresse beaucoup.
Justement, quand vous écoutiez Dominique Fourcade en disant « j'aime beaucoup de choses, mais j'aime entre autres son cheminement », ça passe aussi ce plusieurs par le fait de regarder ou de lire ou d'être à l'écoute du cheminement des autres. Vous vous renseignez sur votre propre pluralité en lisant ou en rencontrant les œuvres des autres créateurs ?
Quand j'aime l'écriture d'un auteur, je le suis, oui. Je lis à peu près tout ce qui sort, et Dominique Fourcade, j'ai lu à peu près tous ses livres, pas forcément dans l'ordre, parce que j'ai pris son travail en route. Oui, je pense que la notion d'œuvre, elle est importante, sans mettre de majuscules. C'est pas une question de prétention ou de surplomb, c'est juste une question que un art, il s'ouvre, il se transforme, il s'approfondit. Et c'est pareil pour la peinture ou pour la musique. Donc je peux voir plusieurs expositions du même peintre. Ça va me parler autrement, et puis parce que je vais voir des choses différentes et que je vais aussi, avec mon propre regard qui bouge, voir des choses qui ne m'étaient pas apparues jusqu'alors, par exemple. La notion d'œuvre, c'est très important. On n'est pas l'auteur d'un livre. On est dans l'écriture, et l'écriture, c'est toute une vie.
Je vais lire alors cette citation de Dominique Fourcade que vous placez en exergue de votre livre. « Demandant à l'écriture parmi tout ce que je lui demande sans cesse de me permettre d'être présent à l'instant du début de l'abîme précisément pour être à même de ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes. » Pas rien de mettre cette phrase-là. Ça veut dire que ce que vous demandez à l'écriture, Claudine Galéa, et peut-être ce que vous demandez à la lecture, c'est vaste.
C'est précis. Je ne sais pas si c'est vaste, mais c'est précis. C'était très étonnant parce que j'ai reçu un petit livre de Dominique Fourcade, des petits volumes qui paraissent chez Chandaigne avant que ses textes ne paraissent chez POL. Et j'avais un autre exergue, donc je n'étais pas du tout certaine, je pensais l'enlever. Et j'ai reçu ce livre quelques semaines, même pas, je crois, avant les épreuves. Et lisant ce texte, tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça.
Je vous le donne ?
Oui, juste pour dire exactement la fin de cette citation. Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes. C'est ça qui m'a complètement traversée. Et ça me parlait complètement à ce que je venais d'écrire. Parce que ce qui m'habite et ce que je cherche dans l'écriture, c'est ça, c'est la peau des gestes. C'est-à-dire aller à l'extrême tactilité, à l'extrême sensualité, avec en même temps une forme de précision qui restitue une forme de vérité, je dirais.
Et peut-être qu'il en sera question de la vérité dans ce texte-là, puisque vous dites, Claudine Galéa, que c'est important, l'œuvre, sans lui mettre un O majuscule, est-ce que vous sauriez dire ce que ce roman occupe comme place dans votre travail, en dehors du fait qu'il est le dernier ?
Alors, il occupe cette place de la composition que jusqu'alors j'avais peu explorée.
Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis,
c'est-à-dire
pour les personnes qui n'ont pas lu ?
Ce livre parle à la fois de choses extrêmement intimes, vécues de l'intérieur du corps, et puis de l'histoire avec un grand H, qui est l'histoire qui a traversé les générations entre les années, on va dire, 60 et les années 80. C'est à peu près la période du livre. Et pour moi, il n'y a pas, on n'est pas fait que de nous-mêmes, on n'est pas fait que de soi-même. On est constitué par plein de couches et notamment par le monde extérieur. Ce monde extérieur qui n'est pas simplement dans l'histoire les parents de la petite, puisque ça s'ouvre avec une petite, mais à l'époque de ce qui se passe notamment en Algérie. Et qui vient percuter, on va dire, l'histoire du couple des parents. le père étant pied noir et la mère étant communiste. Donc, à deux, on va dire à deux extrêmes du spectre politique de l'époque. J'ai perdu ce que je voulais dire.
La composition, c'est-à-dire que ça, tout ça entre voilà, dans le texte.
Voilà, et tout ça, et comment composer une histoire avec cette histoire extérieure qui remonte presque à la fin du 19e siècle, et l'histoire de ce personnage, de cette héroïne, entre guillemets, qui traverse les années 60 à la fin des années 80. Donc, comment composer un livre avec des repères temporels parfois très éloignés, des histoires extrêmement différentes, puisque entrent en jeu des générations différentes dans le livre, et des espaces différents. Et ça, je ne l'avais jamais fait.
Et c'est important que vous disiez qu'on commence le roman avec une petite, et on commence le roman avec une petite qui ne veut plus marcher, dont le pas s'arrête, comme si ce n'était plus possible d'aller avec cette robe, d'aller avec ce pas, d'aller avec cette marche de l'histoire et de la vie, comme si ce livre aussi commençait à un pas arrêté, quoi, un peu au pied du mur, Claudine Galéa.
Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est assez troublant ce que vous dites. Oui, peut-être que je suis sans doute partie de quelque chose à quoi je ne pouvais pas me dérober. Et qui est en dehors de moi-même, comment on fait quand on est arrêté dans le mouvement de la vie. Cet enfant, elle
c'est le premier chapitre, hein.
Oui. Cet enfant, elle est souvent arrêtée dans le mouvement de la vie par plein de choses qui se passent. Or, je pense qu'elle décide à un moment donné d'enjamber les obstacles et de continuer à marcher. C'est vrai que dans cette ouverture, il y a cet enfant qui est immaculé, qui est toute vêtue de blanc. Tout d'un coup, s'aperçoit que les semelles de ses chaussures sont sales. Et c'est un choc. Et en même temps, c'est un départ. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on va être sale, eh bien, on peut avancer.
Et c'est aussi la fin du livre, hein. Elle appelle la sortie de l'innocence. Elle appelle la sortie du blanc. Elle veut voler, voire être violée, au sens très métaphorique du terme, bien entendu. Mais c'est regarder les chaussures sales en face.
Oui.
Maman, les choses comme elles sont ne disent pas tout. Les choses comme elles sont ne sont pas seulement dans les faits. Elles sont ailleurs. Elles migrent. Elles échappent aux faits. Elles se glissent partout. Partout, elles font leur nid, développent leurs racines, leurs tentacules. Les choses comme elles sont se ramifient, prolifèrent dans les ventres, les corps issus des ventres. Elles créent des logiques, tissent des liens, mettent en place des stratégies. Elles mènent la guerre, une guerre invisible, secrète, bien réelle. Les choses comme elles sont exigent des combattants, des combattantes, qu'elles immolent selon leur logique meurtrière, à la hache. Jusqu'à ce que quelqu'un dise « stop », dise « non », dise « ça suffit ». Maman, j'ai dit « mais tu étais déjà morte, les derniers jours, le cancer dans ton utérus avait rendu ton ventre noir. Tu n'étais pas vieille, tu venais de prendre ta retraite. Maman, je vais écrire les choses comme elles sont. Je vais les sortir du ventre de la mère. » Écrire, pas croire. Qui croira un bobard pareil, que tout a disparu dans le ventre de la mer? Les ventres ne sont pas sans fond. Croire est sans fond. Sans fond ment.
Les choses comme elles sont, c'est aussi le titre de votre livre, Claudine Galéa, dont Anna Baron vient de lire un extrait. C'est un extrait assez important parce que c'est un extrait qui vient en symétrie avec une autre lettre qui arrive à la fin du livre et qui est une lettre au père. Ça me tenait à cœur qu'on fasse entendre ce passage parce que ça me semble être aussi un moment du dévoilement du projet romanesque, écrire les choses comme elles sont. Est-ce que ce fut le vôtre, sachant que c'est un roman, et que c'est de la fiction, et que c'est de la composition, comme vous le disiez tout à l'heure, Claudine Galéa?
Alors d'abord, je vais dire quelque chose parce que le choix que vous avez fait de lire cette lettre est arrivé à la toute fin pour moi dans l'écriture. Les deux lettres sont arrivées vraiment au dernier moment. Pendant longtemps, elles n'ont pas été dans le livre. Donc c'est assez étrange que vous ayez fait ce choix-là. Qui arrive, oui, sans doute à la fois comme l'extrême dévoilement ou dépouillement de toutes les couches que ce livre s'emploie à faire remonter et qui correspond à quelque chose que j'ai cherché tout le temps d'écriture, qui était, j'ai eu très vite le titre, très très vite. Je ne savais pas complètement ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait me dire. Et quand on lit le titre, on peut le prendre au fond comme un cliché, comme quelque chose qu'on accepte. Et souvent, les choses qu'on accepte, c'est qu'on renonce à quelque chose. Et évidemment, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, les choses comme elles sont, dans le cliché, c'est ce qu'on croit qu'il y est. Ou du moins, ce qu'on voit au début. En général, ça recouvre beaucoup d'autres choses. Et il est clair qu'à la fin du livre, les choses comme elles sont ne veut plus dire exactement les choses comme elles étaient au départ. Le personnage de la mère a un certain point de vue sur les choses comme elles sont, un point de vue qui se rapproche du cliché, qui est figé. Et le personnage de la fille va s'employer à défaire ce cliché, à nettoyer, les apparences, en tout cas à aller chercher derrière les apparences, les choses comme elles sont, c'est les choses en mouvement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, ce qui est au départ, notamment les données d'histoire.
Les faits, comme elle dit,
les faits sont insuffisants. Les faits ne s'écrivent pas forcément de la même façon, ça dépend comment on les lit. Et l'une des questions du livre, c'est ce qu'on a un héritage et ce qu'on en fait. On peut très bien se contenter de subir ou d'accepter encore une fois les choses qui nous sont imposées ou voire même infligées. J'ai un autre point de vue et je pense notamment que la littérature aide à bouger ce point de vue, c'est-à-dire aide à mettre en mouvement ce qui nous assigne, aller dans l'écart par rapport à ce qui nous est donné au départ, que ce soit des données biographiques, des données historiques, des données sociales. Pour moi, et c'est en ça que ça rejoint peut-être ce que vous me proposiez au départ, aller vers la beauté, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que écrire, c'est ce travail-là aussi de se donner un peu plus de liberté et une vision du monde et de l'histoire, la sienne et celle des autres, qui soit un peu plus lumineuse, peut-être. En tout cas, plus ouverte. Moins fermée, que ça ne soit pas une prison, qu'on sorte de la prison. Les choses comme elles sont, c'est pas forcément une prison.
Ce qui me fait penser quand même, Claudine Gallet, lorsque vous dites la littérature, ça permet d'aller à l'écart, d'aller à la marge, j'ai envie de dire, virgule, d'aller au bord. Et ça me fait penser au titre de ce texte que vous publiez en 2010, qui a donné lieu à une adaptation sur scène, notamment par Jean-Michel Arabeux, j'espère à bien d'autres, qui est un texte extrêmement important, qui vous emmenait sur un autre territoire. Mais néanmoins, ce titre qui disait « Aller au bord » proclamait déjà un projet de littérature ou un projet d'écriture. Qui serait lequel ? Qui serait se déplacer des images figées. En l'occurrence, là, c'était une photo d'un prisonnier à Guantanamo et d'une personne qui... Abu Ghraib, pardon, et qui le tenait en laisse. Se décoller des faits, se décoller des images, se décoller de l'histoire, prendre un peu d'espace, quoi.
Se décoller de ce qu'on croit savoir et de ce qu'on nous force à savoir. Ça, c'est certain. Je pense que tout mon travail, c'est un travail d'émancipation. Se tenir au bord, pour moi, ça, c'est vraiment un projet d'écrivain au sens où rien n'est jamais assuré dans l'écriture. Et trouver l'endroit juste est toujours un endroit qui tremble. Un endroit qui est risqué. Voilà. Et je peux pas travailler sans risque. C'est peut-être pour ça que je cherche aussi toujours à faire des choses que j'ai pas faites jusqu'à maintenant. Même s'il y a une continuité, on est toujours hanté par des choses. On est toujours obsessionnel quand on écrit. Mais au fur et à mesure du travail, on peut déplier de plus en plus de choses. Et donc, être au bord, c'est être dans ce tremblement de ne pas tout à fait savoir ce qu'on cherche au départ quand on se met à écrire et de trouver la langue. C'est en trouvant la langue, c'est en trouvant la phrase, c'est en trouvant la composition, encore une fois, qu'on sait, pas qu'on sait, mais qu'on trouve ce qu'on a à dire et que ça nous apparaît, ça m'apparaît en écrivant. Je ne savais pas au départ quelle dimension allait prendre ce livre. J'ai mis 4 ans à l'écrire, il m'a fallu 4 ans pour y arriver. Et avec des temps de silence, des temps d'arrêt, des temps de non-savoir, comment continuer, etc. Mais bon, ça c'est le travail, il n'y a rien d'exceptionnel à ça.
Dans cette lettre, il y a l'idée de l'insuffisance des faits. Néanmoins, est-ce que vous avez eu besoin de vous en approcher de ces faits-là? Avez-vous eu besoin d'aller consulter des archives, Claudine Galéa, lire des lettres, vous rapporter des livres d'histoire, parce que c'est aussi un livre qui en est tissé?
Oui, j'ai enquêté beaucoup, mais ça fait partie du travail qui me passionne, c'est d'aller regarder les documents. Notamment, mon enquête a porté sur une disparition très importante qui est le trou noir du livre, on va dire, qui est le grand-père de l'enfant, grand-père qu'elle n'a pas connu, mais surtout père de la mère, qui a disparu en mer.
Et d'où le double sens de la phrase que vient de lire Anna Baron, le ventre de la mère, M-E-R.
Et en fait, en travaillant, en allant chercher, j'ai quand même découvert que cette disparition d'un navire dans les années 50 en Méditerranée n'avait pas pu se produire telle quelle. Et qu'il y a très certainement une déportation du navire et de ses hommes, certainement en Espagne, on était en plein franquisme, mais je ne peux pas en savoir plus parce que le dossier est classé secret défense. Mais c'était déjà formidable d'approcher de ça. Alors, il y a 2 manières de s'approcher. Il y a d'abord, effectivement, enquêter les faits, on va dire, essayer d'en savoir le plus possible avec les documents qu'on peut trouver. Et puis, il y a la façon la plus intéressante de s'approcher, qui est l'écriture. Pour moi, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que j'aurais rêvé d'être musicienne parce que j'admire dans la musique et chez les musiciens l'exactitude.
Vous savez qu'en miroir, souvent, ils admirent l'exactitude des mots. Hein.
Ouais, mais bien sûr. Sauf que l'art de la musique se passe totalement d'approximation. Ce qui n'empêche pas le jeu et l'interprétation. Mais pour moi, voilà, c'est un modèle, je dirais. Si j'ai un modèle, c'est celui-là. C'est-à-dire, avec l'écriture, d'aller au plus près de la précision. Donc, aller dans, par exemple, dans l'extrême de la sensation. Essayer de retrouver. Je ne pars jamais de l'extérieur. Je déteste le surplomb. J'essaie de partir de l'intérieur des corps. Et notamment, c'est le travail sur la première partie, c'est-à-dire que comment, à l'intérieur du corps de l'enfant, on ressent les choses. Ça, c'est un travail merveilleux. Et on peut le faire que dans l'écriture, parce que dans la vie, on le fait pas. Dans la vie, on se contente de vivre. On fait des choses. La petite, elle marche dans la rue, puis tout d'un coup, elle voit que ses souliers sont salis. Mais elle se pose pas les 1000 questions que moi, ensuite, je vais écrire. Parce que je vais essayer de retrouver l'instant de la sensation la plus aiguë. Parce que c'est dans le détail que le nous se cache à l'intérieur du jeu, je dirais. Voilà. Que notre condition d'être vivant, notre condition d'être au monde, c'est là qu'on peut l'approcher. Et ce travail d'approcher par l'écriture à la fois l'exactitude de la sensation, je dirais sensation plutôt que sentiment, parce que les sentiments, ça vient toujours d'ailleurs, ça vient de choses qu'on ressent par le corps. Et c'est là qu'on est le plus mobile.
Ça veut dire que vous avez dû aller chercher par l'écriture la vérité des sensations, mais des vôtres, ou la vérité des sensations dans l'absolu. Je m'explique un peu, Claudine Gallet. Est-ce que ça passe par une exploration de vos propres souvenirs, de votre propre sensorialité?
Alors, il y a beaucoup de choses qui me sont intimes dans ce livre, hein, qui me sont personnelles, on va dire. Mais encore une fois, j'ai dû vivre 10% de ce que je raconte. C'est-à-dire que, à un moment donné, c'est pas l'enfant qui est là qui m'intéresse, c'est l'enfance. Alors, pour atteindre à l'enfance, et je l'ai fait dans d'autres textes, donc bon, je sais un petit peu de quoi je parle et j'ai toujours des choses à découvrir à l'intérieur de ce domaine-là d'exploration. Il faut aller, en revanche, dans la particularité ou dans la singularité d'une enfant pour aller trouver l'enfance. C'est par là que ça passe, par des choses extrêmement précises, par le petit sac qui tombe, par la façon dont l'enfant va se pencher pour... Et quel est ce corps à ce moment-là? Comment ça se passe? Et quel est ce corps d'enfant par rapport à ces corps d'adultes qui sont combinatoires à ses côtés? C'est des choses comme ça, c'est...
De même le langage.
De même le langage. De même le langage. Aller... déplier. Moi, j'appelle ça un travail de dépliement. Et il y a, c'est peut-être dans le roman que je peux déplier le plus de choses, parce que c'est dans le roman qu'on a le plus le temps et l'épaisseur de l'écriture.
Par exemple, pour en revenir aux problématiques de composition que vous évoquiez au tout départ, Claudine Gallet, une manière que vous avez de déplier les choses dans votre roman, les choses comme elles sont, c'est de rapporter via l'italique les phrases entendues. Mais ce qui se passe dans le texte, c'est que d'un seul coup, on est en mesure à la fois de les lire avec des yeux d'adulte et à la fois de les entendre avec des oreilles d'enfant. Comme si vous ne vous étiez pas contenté de rapporter les phrases entendues par le personnage enfant, mais de rapporter la sensation que produisent les phrases sur le corps et la tête d'une enfant.
Alors, merci de dire ça, c'est très 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 juste. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le style qui est allé s'approcher de très 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 près, et il y a la tonalité qui est gardée une certaine distance. Et cette tonalité-là, elle vient peut-être dans un second temps. C'est-à-dire il y a d'abord les mots, et puis il y a ensuite la façon dont les mots résonnent. Et j'avais besoin de cette tonalité plutôt joyeuse de cet enfant, qui est curieuse de tout, pour... l'entendre, exactement, pour l'entendre. Donc pour moi, il y a toujours ce double travail-là.
C'est une petite fille qui est très inventive, qui a un rapport, voire une histoire d'amour avec le langage, avec les mots, qui aime les histoires, mais au sens presque de l'appétit, quoi, et qui en vit de ça, qui a un sasseur, qui a plein d'interlocuteurs humains et non humains, des choses, plein de départs de jeu comme des petits départs de feu. Si bien que ce texte-là, qui est quand même tissé de violence, qui est tissé de guerre, et on va y venir dans un instant, est aussi tissé d'une très grande vivacité. Comme si les deux presque se répondaient dans votre texte, Claudine Gallet.
Je ne peux pas écrire sans cette vivacité-là que j'appelle la vitalité.
C'est le mot que je cherchais.
Pour moi, les livres doivent apporter la vie. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. J'écris pour donner de la vie, pour mettre en vie, pour garder en vie, peut-être. C'est très important pour moi comme écrivain et c'est très important pour moi comme lectrice. Les livres, pour moi, c'est du vivant.
Vous habitez à Alger ? À Alger. Est-ce que vous avez l'intention de rester en Algérie? Je reste. Pourquoi?
J'ai tout ici. Et je veux rester. J'aime l'Algérie, je veux rester ici.
Pourquoi pensez-vous que les gens partent alors?
Parce qu'ils ont peur, d'abord. Et je vois que tout le monde a changé de couleur. Oh, je sais plus ce que je suis. Mais je suis français après tout.
Et vous restez?
Je reste.
Au micro, Jean Piazza. L'actualité s'est transformée chez nous le temps d'un week-end. Peut-être faudrait-il dire qu'elle s'est regroupée autour d'un sujet, d'un problème, celui des rapatriés. Chaque homme, chaque femme de ce côté-ci de la Méditerranée est devenu conscient du drame qui est en train de se jouer pour des dizaines de milliers d'autres Français qui vivent depuis longtemps, depuis toujours souvent, sur le sol algérien.
Puis-je vous demander quelle était votre profession ?
J'étais cheminot, monsieur.
Vous regrettez votre pays ?
Oui, monsieur.
De quel endroit arrivez-vous exactement ?
On vient de Bellabès.
Qu'allez-vous faire ici?
Et moi, ce que je pourrais faire.
Nous essaierons de nous faire ici.
Vous avez des parents en France?
J'ai toute ma famille.
Par conséquent, vous allez décider
non,
maintenant.
Non, en Algérie.
Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'elle vient vous rejoindre?
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Claudine Galéa.
Les grands-parents d'Algérie habitent loin, dans les quartiers nord de Marseille. Ils ne vont jamais les voir, c'est trop loin, plaide la mère Ritou. Un jour, ils prennent la voiture, traversent la ville, longent le port de marchandises. À travers la vitre, la petite dévore la mer des yeux, les bateaux, les trains de marchandises. Elle se demande pourquoi ils ne viennent pas plus souvent ici, c'est si beau. Mais il ne faut pas poser de questions, la mère Ritou est de mauvaise humeur. Ils laissent la mer pour un ensemble d'immeubles, il y a des enfants qui jouent sur le parking, du bruit et une odeur de cuisine dans les escaliers. Ça plaît à la petite. Elle n'a pas retenu les noms des grands-parents d'Algérie. Ils sont chez Mémé Gâteau, Pépé Oiseau et Tati Miro. Sur le petit balcon devant la cuisine, ça roucoule, ça gazouille, ça chante, ça vocalise, ça crie. Les perruches de Pépé Oiseau. Tati Miro, aux lunettes si épaisses qu'on ne voit pas ses yeux, leur donne le bain. La petite les regarde ébouriffer leur plumage, sauter dans la tasse pleine d'eau, y fourrager de leur bec, puis la secouer en tous sens. Tati Miro ferme la porte de la cuisine. J'en peux plus du ramdam que font ces sacrés oiseaux. Alors, la petite retourne dans la salle à manger où il n'y a rien à faire. Les adultes jouent aux cartes, elle tient dans ses bras la nouvelle poupée qu'elle a reçue. Pourtant, ce n'est ni Noël, ni son anniversaire. Ici, on la couvre de baisers qui l'étouffent, on lui dit plein de gentillesse, on lui donne du gâteau, on s'extasie, comme elle a grandi, et on lui offre des cadeaux. La mère Ritou a prévenu qu'il vaudrait mieux lui offrir des habits car elle a bien assez de jouets, mais Tati Miro a dit « On ne sait pas quelle taille lui prendre, on ne la voit pas souvent, on ne sait pas ce qu'elle aime. » La mère Ritou l'a interrompu sèchement. « Vous n'êtes pas obligé de lui faire un cadeau chaque fois qu'on vient. » Ce n'est pas très gentil, surtout qu'ils viennent tous les 36 du mois.
Claudine Galéa, Lou Quevauvier lit un extrait de votre texte « Les choses comme elles sont ». Et juste avant, on entendait de la musique et extrait d'un reportage diffusé sur dans l'émission 2000 ans d'histoire sur France Inter et qui évoque comme ça par bribes assez difficile à identifier le rapatriement des Français d'Algérie. Et c'est quelque chose qui existe dans votre texte, comme on vient de l'entendre dans la voix de Lou, mais qui existe idem d'une manière presque impressionniste. Je dirais, jamais frontal, jamais factuel. Est-ce que c'est comme ça que vous avez voulu que ça advienne dans votre texte ?
Eh bien, disons que je n'ai pas fait un livre sur l'Algérie. ni sur les pieds noirs. Il y en a eu pas mal ces dernières années. Mais elle est là. Encore une fois, elle est là. On n'en sent pas forcément les effets.
Qui est là ?
Alors, l'Algérie est là par le père, qui est pied noir, qui est rentré en France, qui a fait rentrer sa famille en France et qui, quelque part, est resté là-bas, ce fameux « là-bas » qu'on utilise toujours quand on parle de l'Algérie. Donc, ça fait partie du paysage. Et encore une fois, mon envie était que ce paysage, je ne le traite pas directement, mais que j'en éprouve les traces, les blessures, les failles, les fêlures, les agressions. Et tout ça passe à travers la figure paternelle, essentiellement la figure paternelle, puis la figure des grands-parents, qu'ils ne voient presque jamais, donc il n'y a pas de hasard. Ces gens qui sont presque invisibles, en réalité, marquent profondément l'enfant. Parce qu'on sait très bien que ce qu'on voit peu, ou que ce qu'on cache, eh bien on va y retourner dès qu'on pourra.
C'est le sens de ces mots que je lisais en introduction. Dans toutes les vies, il y a des trous noirs, des secrets, des histoires innommables. Mais en fait, plus on les cache, puis on s'y relie en secret, on se met au secret, on s'emprisonne, on se fout au trou, on ressasse, on se fait bouffer de l'intérieur, on devient son propre rat. Et l'entreprise de la narratrice, c'est de n'être pas cela. De n'être pas son propre rat et d'aller voir là où il y a des secrets pour que les secrets n'en soient plus et donc qu'ils ne soient plus des prisons.
Absolument. Vous savez, j'ai mis beaucoup de temps à aller regarder de ce côté-là. Mon père, donc, était pied noir. J'ai grandi à Marseille. Donc là, il y a des choses très, très intimes, très intérieures. Et j'ai mis du temps parce que je savais pas comment y aller, tout simplement. Et la figure du père, qui a été peu présente dans mon travail jusqu'ici, est enfin apparue. Et avec la figure du père est venue la figure de l'histoire. Et une figure pas toujours conforme au sens où ce père a... Ce père est pas mal idéalisé par la petite. Ce père a aussi beaucoup de défauts, notamment celui de s'absenter assez vite. Et puis, c'est un homme blessé tout autant que la mère. Sa blessure le rend quand même sans doute aussi intolérant que l'est la mère, ça apparaît moins. Mais la figure des pieds noirs ne peut pas être vue simplement du côté de la douleur, d'une certaine agressivité politique. On sait très bien aujourd'hui, on l'entendait dans l'archive, oui, c'était leur pays. Et ils pouvaient ne pas se questionner sur certaines choses. Mais néanmoins, on ne peut pas questionner le fait qu'ils ont été exilés. Et que être arraché à ce pays, c'était être déraciné, être inadapté, comme le dit le père. Il dit « je suis un inadapté ». Et ça, c'est une chose qui m'intéresse toujours. J'aime pas beaucoup les choses en noir et blanc. Je pense qu'on est tous très doubles. On a tous des parts d'ombre. On a tous un côté aussi inavouable, inacceptable. Et on a tous un attachement profond à des choses qui... je veux dire, quand on n'en est pas, quand on n'est pas un pied noir, il y a des choses qu'on ne comprend pas.
Et de toute façon,
et moi, j'aime voir ce côté duel, quoi.
Et de toute façon, j'allais y venir. Cette dualité, ce contraste, il existe dans le couple même, puisque vous le disiez, elle est à l'autre extrémité politique de l'époque, communiste. Et donc, ces choses que peut-être ne sont pas à même de regarder les familles pieds noirs, à savoir qu'il s'agit là d'une décolonisation et aussi d'une déconstruction d'une violence d'État, elle est là pour le dire. La mère, elle est là pour le dire et pour le porter. Donc, d'une certaine manière, les deux couleurs, elles sont dans le couple parental et nécessairement dans le personnage de la petite fille.
Voilà. Et la petite est très attachée à son père. même si ce qu'elle entend de sa mère fera partie de son évolution ultérieure. C'est-à-dire il y a l'analyse des choses et il y a le sentiment des choses. Sentiment sans pathos, entendons-nous bien, mais la sensation des choses. Et son père qui peut piquer des colères terrifiantes, son père est extrêmement important pour elle parce que je crois qu'elle le perçoit très bien que son père est blessé, alors que ce n'est jamais dit.
Les psychanalystes diraient que je suis un cas de refoulement massif des souvenirs. C'est-à-dire que je ne me souviens quasiment de rien de mes 12, 13, 14 ans. Je me souviens vraiment de très très peu de choses. J'ai totalement aboli. Alors la mémoire sélective est extraordinaire. Par exemple, si on prend le collège, je ne me souviens pas du tout d'une salle de classe. Je pourrais décrire la cour de récréation, l'urinoir, la machine à café et tous les éléments. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai passé
plus de temps.
4 ans dans une cour de récréation. C'est assez étonnant, quoi. Sur ce genre d'éléments, c'est assez fort. C'est-à-dire, moi, de toute façon, je pars d'une mémoire qui est pas une table rase, bien évidemment, mais où les choses, disons, sont très enfouies, très très latentes, mais quand même en profondeur. Donc souvent, c'est vrai que c'est que dans des livres ou dans autre chose, dans des conversations avec des amis, etc., j'aime en fait refaire émerger des éléments de qui nourrissent ce souvenir. Mais en tout cas, moi, je n'ai aucune confiance dans mes propres souvenirs. J'ai toujours l'impression que c'est des propos rapportés, que c'est autre chose. Et j'ai parfois l'impression, et ça peut être aussi des sources de mélancolie, d'être assis sur du sable.
Viens là. Chaque fois me dire ce que je sais déjà. Viens là, tu as un drôle de cœur qui part toujours à 100 à l'heure. Souvent il s'est fait avoir par des gens beaucoup moins.
Eh bien, si on pouvait imaginer à quel point Françoise Hardy allait répondre à Yves Pagès avec cette chanson dans cette archive de 2008, il dit que tout ce travail littéraire reposait sur l'amnésie, mais on est quelques années avant qu'il écrive « Souviens-moi ». C'est votre éditeur, Yves Pagès, l'éditeur de Vertical, Claudine Galéa. Et je trouve assez intéressant d'entendre Françoise Hardy, bon, d'une part pour parler de la place des chansons dans ce texte, mais aussi parce qu'elle dit « Viens là me dire des choses que je sais déjà ». Et ça répond à Yves Pagès qui dit que je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas de souvenirs. Ce texte-là, il dit que de toute façon, qu'on en ait ou pas des souvenirs, il faut leur laisser la possibilité de venir se répéter à l'oreille.
En fait, pour moi, écrire, c'est donner de la mémoire aux souvenirs. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà. Ce qui veut dire que fictionnaliser, c'est tout le travail de la littérature, et que sans cette fictionnalisation, on n'atteint pas au cœur du souvenir. Voilà.
Quand vous dites donner de la mémoire au souvenir, ça me fait penser à ce que vous disiez au tout début de notre entretien, c'est donner de l'espace, donner plus d'espace, plus de géographie, plus d'amplitude, qu'un souvenir ne suffit pas, en fait. Qu'il s'agit avec l'écriture de le creuser ou de l'élargir. Et je trouve que les chansons participent à ça. Je ne sais pas parce que... Quelle place elles occupent, ces chansons qui existent dans votre texte, Claudine Galéa ?
Je crois que j'aime beaucoup les chansons. C'est pas la première fois que je mets des chansons dans mes textes. Les chansons, c'est un concentré d'époque. Et c'est un concentré d'émotions. Notamment si on pense aux chansons d'amour, les chansons d'amour en disent en quelques strophes, des mille émotions qu'on ressent dans l'amour, elles correspondent exactement à des états qu'on a traversés. Donc voilà. Et c'est ces états-là que j'aime bien retrouver par la chanson. Et ça ne change pas au cours des époques.
C'est-à-dire ?
Ça se poursuit, c'est-à-dire que une chanson correspond. Bon, bah, Françoise Hardy, c'est toute une époque, même si Françoise Hardy continue à écrire des chansons et que je continue à en écouter. Je sais très bien quand j'utilise une chanson de Françoise Hardy, en l'occurrence dans le livre Message personnel, à quoi elle correspond à ce moment-là. Donc elles disent aussi quelque chose d'un état qui mêle encore une fois l'intime et le public.
Et c'est ça, et donc cet élargissement dont je parlais, c'est aussi parce qu'elles font entrer un air du temps, en fait.
C'est ça.
En très peu de mots.
C'est ça.
Papa, pendant des années, j'ai oublié que tu avais fait cette chose inouïe, peindre un ciel bleu étoilé au plafond de la villa. J'avais oublié la beauté du ciel bleu du plafond. Lorsqu'à mon tour, je suis descendue dans le trou, j'ai touché le fond. J'ai été chercher tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais compris, senti, et tout ce que j'ignorais, tout ce que je pouvais trouver, tout ce qui a fait l'histoire de cette famille, l'histoire d'une époque, l'histoire de plusieurs vies, et je suis remontée à la surface. Le ciel bleu m'attendait, éclatant. Il était là, imprimé dans ma rétine, dans tout mon corps. Je l'avais regardé de tout mon corps, jusqu'à mes 17 ans. Une fille de 17 ans qui court, vers le bleu, vers le large. À l'horizon, il y avait sa vie, sa vie.
Jeanne Alléos lit un extrait de votre texte, Claudine Galéa, et pas n'importe lequel. Je disais tout à l'heure, quand on entendait dans la voix d'Anna Baron la lettre à la mère, qu'il y avait un geste symétrique qui arrive plutôt à la toute fin, qui est cette lettre au père, et qui dit presque que ce roman va vers le bleu, qui va vers un geste, une fantaisie oubliée. Qu'en fait, dans tout ça, il y avait aussi un geste là, qui est l'inverse de la vie arrêtée, quoi.
Bah oui, parce que peindre dans les années 70 le plafond d'un couloir en bleu, ça me semble à moi-même complètement incongru, complètement imprévisible, au point que je me demande parfois si je ne l'ai pas rêvé. Tellement c'est un endroit de fictionnalisation absolue pour le coup. À tout de suite, on entre ailleurs, on va ailleurs. On est même au-delà de la métaphore. On est dans une autre appréhension de la matière, je dirais. Voilà, et ça, j'aime beaucoup ça. C'est un petit peu le ciel bleu des poètes. Je ne suis pas poète, donc pour moi, c'est un peu ça. Ce qui ne veut pas dire que le ciel bleu, c'est le monde parfait, hein, entendons-nous bien.
Pas du tout, mais c'est le monde possible en tout cas.
Oui.
Et c'est vraiment le monde, un ciel bleu, mais aussi un ciel étoilé. En tout cas, moi, c'est comme ça qui m'est apparu à la lecture. Et l'étoilement, c'est ensuite la collection de vie qui clôture le roman et qui est, vous le disiez tout à l'heure, les livres doivent apporter de la vie, mais là, ça apporte des vies et de la vitalité. Et c'est une fin assez imprévisible pour la lectrice que je fus de votre texte, Claudine Galéa. C'est que tout est ouvert. Tout est possible.
Bon, je crois que j'aime ça, mais je crois que c'est ça la littérature. Le pouvoir de la littérature, si jamais elle a un pouvoir, c'est sa possibilité. C'est de donner cette possibilité de vivre malgré tout et de vivre avec tout, si je puis dire. De pouvoir s'offrir ça et de pouvoir l'offrir au lecteur. La petite, au début du livre, on sent très bien qu'elle a envie de comprendre. Elle veut comprendre. C'est pour ça que les mots la passionnent, c'est pour ça qu'elle observe tout, que la moindre intonation de l'adulte lui en apprend autant qu'un mot prononcé, qu'elle sait bien très vite que les choses se comprennent aussi par les gestes. Hein. On en revient à cette peau cette magnifique expression qu'est la peau de leurs gestes. Comprendre, c'est pas pour savoir et pour pas être sûr d'un savoir, c'est pour être moins seul. Et je crois que moi, ce que les livres m'ont toujours offert et continuent de m'offrir, c'est que je me sens moins seule avec un bon livre. Et au fond, au fond, c'est peut-être vers ça que je vais, c'est donner un peu de soutien. En tout cas, oui, vous dites le ciel bleu étoilé, d'autres vies possibles, et être moins seul, c'est tellement important dans la vie de sentir ça, de se sentir accompagné. Pour moi, les livres m'accompagnent, l'œuvre de certains écrivains m'accompagne, mais m'accompagne réellement, c'est-à-dire me permet d'être dans ma vie plus forte que je ne le serais sans eux.
On sent dans cette fin quelque chose de l'ordre de la jubilation. Est-ce que ce fut le cas ?
Ah oui, mais dans l'écriture, pour moi, écrire, je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, il y a un moment où j'arrive toujours à ça, à la jubilation, à une forme de jouissance de ce que la langue peut tout d'un coup nous faire nous trouver en accord avec nous-mêmes, avec notre corps et avec les mots, quoi. Quand tout d'un coup, ça se rejoint. Bon, on n'y arrive pas tout le temps. Mais quand j'y arrive, je sais que tout d'un coup, ça sonne juste, quoi, que c'est là, que là, j'ai touché quelque chose et que ça va pouvoir être entendu, partagé. Alors, tant mieux si pour vous, ça finit sur de la jubilation. Y a dans le mot jubilation quelque chose de l'ordre de la gourmandise aussi. Hein, de déployer des saveurs, des couleurs et ça c'est aussi quelque chose que l'écriture apporte. Tout d'un coup le monde n'est plus gris là à l'image du ciel souvent ici qu'on a à Paris. Et tout d'un coup ça se colore et ça se nuance beaucoup. La nuance c'est quelque chose c'est comme la précision, c'est comme le détail, c'est pouvoir entrer dans la chair des choses, être à la fois, je sais pas, l'écriture c'est à la fois très chirurgical, je trouve, et à la fois ça garde toujours de la chair.
Merci beaucoup Claudine Galéa. Les choses comme elles sont, c'est le titre de ce roman paru aux éditions Verticales.
Des envies dans les pentes là, c'est vieux comme le monde. Des envies là, il en tombe. Attention, je peux faire ça. Attention, dans les pentes là. Mais j'ai des promesses à tenir.
Au son ce soir, c'était Olivier Dupré à la réalisation Lise Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et aussi en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Merci à Anna Barou, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Luc Vauvillier et Zosha Orcantourès qui prépare et pense cette émission tous les jours. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture. Dans un instant, le journal. Je vous dis à demain.
Un jour, qui sait, je reviendrai là. On me verra
tous
là. On me verra
tous
t'implorer. J'irai bras comme un hibou. La peur à d'autres. La peur. À tenir avant les forêts, avant de dormir avant les forêts, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller.
un jour, qui sait, je reviendrai. Là, on me verra tous. Là, on me verra tous. T'implorer. Là, on me verra tous. Là, on me verra tous. T'implorer. Pleurer.